Pouvez-vous me la nommer ? Demanda-t-elle encore. Ou bien est-ce un secret ? Ce n'est point un secret pour vous, s'il vous plaît de le savoir, donna Clemenza. Elle se nomme Marie, Marie de Crécy. Elle est de noble lignage. Son père était chevalier. Elle m'attend dans son château, qui est à 10 lieues de Paris. Elle a 16 ans. Eh bien, soyez heureux, je vous le souhaite, signor Guccio. Soyez heureux avec votre belle Marie de Crécy. Guccio sortit et s'élança dans les galeries en dansant. Il voyait déjà la reine de France assister à ses noces. Encore fallait-il, pour qu'un si beau projet vît le jour, que le roi Louis, d'une part, fût en mesure d'épouser Donna Clemenza, et que la famille de Crécy, d'autre part, voulût bien accorder à un Lombard la main de Marie. Le jeune homme trouva Hugues de Bouville en l'appartement où on l'avait logé. L'ancien grand chambellan, un miroir à la main, cherchait la bonne lumière et tournait sur lui-même pour s'assurer de son apparence et mettre en place les mèches noires et blanches qui le faisaient ressembler à un gros cheval pie. Il en était à se demander s'il n'aurait pas eu avantage à se teindre. Les voyages enrichissent la jeunesse, mais il arrive aussi qu'ils troublent l'âge mûr. L'air italien avait grisé Bouville. Ce brave seigneur, fort attentif à ses devoirs, n'avait pu résister, dès Florence, à tromper sa femme, et il s'était aussitôt jeté dans une église pour s'en confesser. À Sienne, où Guccio connaissait quelques dames installées dans la galanterie, il avait récidivé, mais avec déjà moins de remords. À Rome, il s'était conduit comme s'il eût rajeuni de 20 ans. Naples, prodigue en volupté facile, à condition qu'on fût muni d'un peu d'or, faisait vivre Bouville dans une sorte d'enchantement. Ce qui partout ailleurs eût passé pour vice prenait ici un aspect désarmant de naturel et presque de naïveté. De petits maquereaux de 12 ans, guenilleux et dorés, vantaient la croupe de leur sœur aînée avec une éloquence antique, puis restaient sagement assis dans l'antichambre à se gratter les pieds. Et l'on avait en plus le sentiment d'accomplir une bonne action en permettant à une famille entière de se nourrir pendant une semaine. Et puis le plaisir de se promener au mois de janvier sans manteau. Bouville s'était mis à la dernière mode et portait maintenant des surcots à manches de 2 couleurs rayées en travers. Bien sûr, on l'avait un peu volé au coin de chaque rue. Faible prix, vraiment, pour tant d'agréments. « Mon ami, dit-il à l'entrée de Guccio, savez-vous que j'ai maigri au point qu'il n'est pas impossible que je reprenne taille fine ?» La supposition témoignait de beaucoup d'optimisme. « Messire, dit le jeune homme, Donna Clemenza est prête à vous recevoir. J'espère que le portrait n'est point achevé. »
« Il l'est, messire. » Bouville poussa un fort soupir.
« Alors, c'est le signe qu'il nous faut retourner en France. J'en ai regret, je l'avoue, car j'ai pris cette nation en amitié. Et j'aurais bien donné quelques florins à ce peintre pour qu'il allongea un peu son travail. Allons, les meilleures choses ont une fin. »
Ils échangèrent un sourire de connivence, et pour se rendre aux appartements de la princesse, le gros ambassadeur prit affectueusement Guccio par le bras. Entre ces deux hommes, si différents par l'âge, l'origine et la situation, une véritable amitié avait pris naissance, et s'était d'étape en étape affermie. Aux yeux de Bouville, le jeune Toscan semblait l'incarnation même de ce voyage, avec ses libertés, ses découvertes et le sentiment de la jeunesse retrouvée. En outre, le garçon se montrait actif, subtil, discutait avec les fournisseurs, administrait la dépense, aplanissait les difficultés, organisait les plaisirs. Quant à Guccio, il partageait, grâce à Bouville, un train de grand seigneur et vivait dans la familiarité des princes. Ses fonctions mal définies d'interprète, de secrétaire et d'argentier lui valaient des égards. Et puis, Bouville n'était pas ménager de ses souvenirs. Et pendant les longues chevauchées, ou bien le soir, au souper dans les auberges ou les hôtelleries des monastères, il avait instruit Guccio de bien des choses touchant le roi Philippe le Bel, la cour de France, les familles royales. De la sorte, ils s'ouvraient mutuellement des mondes inconnus et se complétaient à merveille, formant un curieux attelage où l'adolescent souvent guidait le barbon. Ils pénétrèrent ainsi chez Donna Clemenza, mais leur air d'insouciance s'effaça aussitôt qu'ils virent planter devant le tableau la vieille reine-mère Marie de Hongrie. Ployés en révérence, ils avancèrent d'un pied prudent.